Un bâti moment avec Marjolaine Meynier-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC.
Bonjour à vous qui nous écoutez sur Bâti Radio à nouveau pour un nouveau Bâti Moment avec moi et avec mon invité du jour. Nous allons parler de l'actualité du bâtiment, bien sûr, de construction, d'aménagement du territoire, de développement durable, de protection de l'environnement, tous ces sujets-là. Mais aujourd'hui, on va focaliser un petit peu plus particulièrement sur le sujet du vieillissement de la population. Alors ça vous paraîtra un peu bizarre parce que c'est pas les sujets habituels et néanmoins, c'est tout à fait lié. Jean-Philippe Arnoux, bonjour.
Bonjour Marjolaine.
Merci d'être là avec moi. Alors vous, Jean-Philippe, vous avez un parcours très éclectique jusqu'au jour où vous arrivez chez Saint-Gobain, il y a je crois maintenant une quinzaine d'années. Vous êtes actuellement membre du Conseil national de la Silver Economy en charge du groupe de travail logement et puis vous êtes directeur Silver Economy et accessibilité chez Saint-Gobain Distribution.
C'est bien ça.
Alors Jean-Philippe, d'abord expliquez-moi d'où vous vient cette appétence pour le secteur bâtiment, construction. Comment vous êtes tombé dans la marmite vous ?
Je suis tombé dans la marmite, alors un petit peu... Je dirais presque par hasard. J'ai plutôt une formation de ressources humaines. Et puis après, bon, très rapidement, j'ai été sur, quand même sur le secteur dans une grande enseigne de bricolage. Avant d'arriver, il y a une quinzaine d'années chez Saint-Gobain. Où là, j'ai découvert plutôt le secteur, je dirais, B2B, hein, professionnel. Et où, bon, j'ai occupé des fonctions de marketing, donc de développement de l'offre sur tous les sujets qui occupaient. C'était dans les années 2005. Déjà le monde du bâtiment, évidemment, la transition énergétique. Et j'y ai retrouvé finalement quelque chose de bien en tant que manager, directeur marketing. Bon, j'avais ma dose de ressources humaines, donc ça c'était bien. Mais j'ai surtout découvert un secteur éminemment humain dans notre relation de proximité avec nos artisans au quotidien. C'était à la plateforme du bâtiment, après il y a eu d'autres enseignes. Et donc je m'y suis réalisé, bon j'ai toujours eu une appétence hein, pour le bricolage, l'habitat. Et puis parfois des sujets complexes qu'il faut savoir expliquer aux gens. Donc une grande notion, je dirais, d'accompagnement des idées, des produits, des grands changements. Donc voilà, donc pas mal de zones d'appétence qui m'ont permis de me réaliser.
Mais vos fils rouges quand même, c'est quand même ça, c'est l'humain au cœur, hein. C'est vraiment ça qui vous drive.
C'est presque plus que ça, c'est une passion l'humain.
Ouais, mais enfin, on se connaît et du coup je peux en attester. Alors vous êtes spécialisé, donc je le disais, sur les sujets plutôt adaptation du logement au vieillissement, au handicap, question d'accessibilité. Vous allez me dire, vous Marjolaine, vous êtes plutôt sur les sujets environnement, expliquez-moi c'est quoi le rapport ? Eh bien en fait le rapport il est évident.
Alors, ben, comme beaucoup de monde, en fait, moi, bon, dès les années 2000, on se posait la question, effectivement, de la première réglementation thermique, en 2000, puis après, il y a 2005, enfin, voilà. Et puis, en fait, 2005, il y a eu une loi sur le handicap, hein, sur l'adaptation des établissements recevant du public, bon, qui concerne 600 000 personnes, donc c'est déjà un gros sujet où on est très en retard. Et c'est en arrivant dans une autre enseigne de Saint-Gobain, qui était La Paire à l'époque, hein, bon, La Paire est sortie de Saint-Gobain, qu'en regardant la pyramide des âges, en fait, de nos clients, mais tout simplement la pyramide des âges de la France, je disais, bon sang, mais plus de 30 à 40% de clients de 65 ans et plus, ça devrait quand même avoir un impact sur l'habitat. C'est là où, d'ailleurs, j'ai croisé le chemin de Luc Broussy et que j'ai intégré France Silver Economy, qui après est devenue la filière Silver Economy, où, effectivement, quand on regarde de façon transversale le secteur et le bâti plus particulièrement, eh ben, on s'aperçoit que cette transition démographique va avoir des impacts sur bien sûr le bâtiment, la santé, le tourisme, la mobilité, et que donc on a une habitude alors très française hein, d'aborder tous les sujets en silo.
Oui, c'est ça.
Et aujourd'hui, alors avec d'énormes efforts et louables et qu'il faut absolument continuer. Bon, nous chez Saint-Gobain, voilà, la neutralité carbone, c'est pas un débat. À horizon 2050, comme je dis, puis avant, si possible. Voilà, ben on a ce facteur humain qui arrive avec un parc de logements anciens, 26 millions, qui est je dirais, qui n'est pas adapté à hauteur de 80%. Et puis un sujet qui est complexe. Je veux dire, le handicap, on peut le normer, puisque en fait, on va étudier l'aménagement du bâti en fonction d'une circulation en fauteuil roulant. Là, en fait, le vieillissement, hein, donc il y a que 2% des personnes âgées qui finissent en fauteuil roulant, et généralement à ce niveau-là, elles sont plutôt en établissement que chez elles. Ben là, c'est vraiment de l'individuel. On ne peut pas normer. Alors, on peut encadrer des solutions techniques, mais on ne peut pas normer.
Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de savoir comment faire pour que les bâtiments soient adaptés à 100% des éventualités de la vie, en fait. C'est ça, le sujet aujourd'hui, concrètement. C'est plus d'adapter au fauteuil. Le sujet, c'est quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes au fur et à mesure des aléas de votre vie, d'avoir finalement un bâtiment qui va pouvoir vous accueillir et dans lequel vous pourrez rester bien.
C'est exactement ça, le bâtiment évolutif au sens de la loi Elan, alors même si elle ne donne pas la recette, ou partiellement. Elle a fait une loi zéro ressaut, mais qui concerne finalement que le handicap, et donc qui ne concerne toujours pas cette question de rénovation. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas cette prise de conscience? C'est que le vieillissement de la population est un sujet qui a toujours été du domaine du médico-social, et jamais
oui.
du bâtiment.
Et oui, parce que c'est pas les mêmes secteurs, c'est pas les mêmes experts qui travaillent dessus, et pourtant ça se joue là.
Et oui, ça se joue entièrement là, et puis avec une approche très curative de nos sujets. Mmh. En fait, on se dit, il y a une perte d'autonomie, on va la soigner, on va trouver, a posteriori des solutions, alors qu'un énorme enjeu pour les finances publiques, mais ne serait-ce que pour les Français, c'est vraiment une grande politique d'anticipation.
Et oui, prévention de la perte d'autonomie, faire en sorte que justement, parce que les bâtiments sont mieux adaptés, on ne se retrouve pas coincé à devoir quitter finalement son domicile.
C'est de la prévention comme pour l'environnement. Mmh. C'est de l'accompagnement, de la formation des Français, avoir les bons gestes au bon moment. Et alors, à votre question très précisément, aujourd'hui, cette génération d'après-guerre qui est propriétaire majoritairement à 60%, je crois, je dirais, c'est une la palissade, habite dans des vieux logements qui, eux, ne sont pas adaptés. Mmh. Non seulement pas en phase avec les normes, énergétiques et écologiques d'aujourd'hui, mais en plus, pas adaptés à leur vieillissement. Mmh. Donc aujourd'hui, effectivement, quitte à avoir un regard très précis et très technique sur le bâtiment, notamment à travers, si on prend les accompagnateurs fer, qui vont accompagner les gens et avoir un regard global sur la performance énergétique du bâtiment, autant n'avoir qu'un seul regard et aussi regarder quelques critères d'adaptabilité, au moins, de ce bâti pour au moins prévenir les personnes.
Non, parce que si on fait la passerelle finalement concrète entre la question vieillissement et la question de l'environnement, un bâtiment finalement qui est plus adapté, dans lequel on ne peut plus rester, ça veut dire concrètement qu'on le quitte, qu'on le laisse vacant et qu'on doit aller chercher un autre bâtiment ailleurs, qu'on va devoir peut-être construire pour ça avec tout le CO2 qu'il implique. Donc du coup, le sujet, c'est vraiment de se poser la question finalement de nous permettre d'occuper les bâtiments dans lesquels on est le plus longtemps possible. Et ça, en plus, ça a des bénéfices importants sur la qualité de vie dans le cadre du vieillissement. Enfin, les gens aujourd'hui, ils n'ont plus du tout le même rêve d'aller en EHPAD ou en maison de retraite. C'est plus la même vision du monde, quand même.
Alors, je vous rassure, Marjolaine, ils n'ont jamais eu le rêve d'aller en EHPAD. Hein.
Non, mais je veux dire, c'est l'inverse. Hein.
Un cas concret qui va illustrer ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, par exemple, sur les territoires ruraux, on avait pu en échanger. Les élus, les maires, souhaitent garder, leur population âgée sur le territoire pour des raisons, déjà humaines, de leur permettre de vieillir avec leurs habitudes, avec leur cadre de vie habituel, mais aussi parce que économiquement, c'est un vrai enjeu. Parce qu'une personne âgée qui reste, c'est une personne âgée qui consomme des produits, des services. C'est parfois, de l'aide à domicile qui vient se réinstaller. Donc il y a un gros enjeu, effectivement, à accompagner les deux sujets pour apporter une réponse qui permettra d'accompagner les Français tout au long de leur vie. Un autre exemple, c'est vrai que souvent, beaucoup de personnes modestes ou très modestes ont la double peine. Elles sont en précarité énergétique, mais derrière, il faut aussi, étudier le fait qu'elles puissent rester. Mmh. On a ça chez des bailleurs sociaux, par exemple. Les EHPAD, alors ça, l'État quand même à tous les bâtiments publics, mais notamment les EHPAD, l'État a accompagné à travers le plan France Relance et puis le Ségur de la Santé, une grande campagne de rénovation. Alors,
ça, c'était important parce qu'un bâtiment bien conçu, c'est aussi un bâtiment dans lequel, un bâtiment de soins bien conçu, c'est un bâtiment dans lequel les personnels de santé peinent moins aussi. Il faut le redire, ça.
Exactement. Donc, ce qu'on appelle, nous, les aidants professionnels, les personnels de santé. Mais aussi, parce que, les populations, notamment âgées, sont beaucoup plus sensibles aux variations de température, qu'elles soient, confort d'été ou confort d'hiver. On l'a vu malheureusement avec la canicule, on le ressent chaque fois, mais et aussi parce que il va y avoir un afflux de personnes dans des établissements, pas forcément des EHPAD, des résidences autonomie, où ça aura un impact direct sur la gestion. Enfin, on ne peut pas imaginer aujourd'hui, demain, avoir des établissements surchauffés ou surclimatisés parce que mal isolés. Donc en fait, à un moment donné, tout converge, et ce qu'on n'investira pas dans la consommation d'énergie, on pourra l'investir ailleurs. Moi, je dirais le rêve qu'il investisse dans de l'humain, dans du personnel, pour mieux accompagner ces gens à vieillir. Voilà, pour je dirais les plus responsables d'entre eux. Mais c'est vraiment un enjeu capital. On peut rajouter également une transition qui est le numérique. En fait, tout est lié. Le bâtiment demain va devenir finalement le lieu de multiples activités. On va pas faire que des loisirs où y dormir, on pourra demain s'y soigner. Moi, je me rappelle quand on avait croisé Agnès Buzyn au tout début, qui parlait de développement de la télésanté. Je dis oui, mais est-ce que les bâtiments seront capables, sont assez connectés, je dirais, par des réseaux voies données images, d'accueillir cette stratégie qui, elle, je dirais, est frappée au coin du bon sens. Et on sait pertinemment que demain, la santé, ça va être le secteur qui va le plus croître, de l'ordre de 60%, puisqu'une population âgée a beaucoup de santé, d'accompagnement, d'entretien, voire je dirais de santé sociale, où aujourd'hui on sait qu'une des voies, notamment dans les déserts médicaux, c'est la téléconsultation. Moi je m'y suis mis sur le tard il y a pas plus tard qu'il y a 2-3 mois, c'est un gain de temps phénoménal. Et puis finalement, ça permet de replacer, je dirais, les services à leur bon endroit à un moment donné. Donc le bâti, finalement, il faut le voir comme vraiment ce lieu de vie où on passe 80% de notre temps. Et il va falloir qu'il accompagne des populations, donc qu'il soit effectivement beaucoup plus évolutif, mais il y a des points incontournables. Évidemment, la transition énergétique et écologique, parce que c'est l'enjeu de tous, mais aussi avoir un regard beaucoup plus opérationnel, je dirais, faire bouger le centre de gravité du sujet de la transition démographique vers les sujets plus techniques, donc le ministère du Logement.
En fait, c'est là encore, on a besoin de décloisonner. On commence déjà à décloisonner environnement, logement, parce qu'avant, c'était deux ministères séparés. Et du coup, demain, il faudrait que le sujet santé aussi s'invite de la partie pour pouvoir avoir une vision 360, en fait, des logements. C'est vrai que cette question-là, elle est importante. Aujourd'hui, il y a quand même un surinvestissement, et moi, j'en suis une militante, donc je ne peux pas dire l'inverse, mais des engagements, notamment financiers, pour la transition écologique, avec notamment beaucoup d'investissements sur les économies d'énergie qu'on doit réaliser, parce que c'est des enjeux qui sont très importants et sur lesquels on a pris des engagements. Mais il y a une petite inquiétude, c'est pour ça que j'étais très heureuse que vous acceptiez de participer à mon émission. Il y a une importance également de ne pas oublier ces questions d'adaptation, parce que le risque qu'on peut avoir aujourd'hui en focalisant toute énergie, tout environnement, c'est de laisser de côté des améliorations des bâtiments sur les questions santé, adaptation, bien-être des populations à l'intérieur des bâtiments tout au long de leur vie, encore une fois, et du coup de prendre du retard là-dessus, ce qui finalement rendrait les efforts environnement obsolètes, parce que derrière, les gens ne pourraient plus rester chez eux, et un bâtiment vide, c'est le pire non-sens écologique qui soit. C'est quand même bien ça qu'il faut se redire. Donc merci beaucoup d'être venu éclairer ce sujet-là.
Merci Marjolaine.
J'ai une dernière question pour vous, pour les jeunes qui nous écoutent et qui s'intéressent à ces sujets-là. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Parce que, alors eux, le vieillissement de la population, c'est très très loin comme sujet, et pourtant, on a besoin qu'ils s'engagent dans ces filières. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ?
Alors, il n'est pas si loin que ça, parce que les jeunes générations sont beaucoup plus sensibles à des critères qui n'étaient pas les nôtres, enfin, je me mets dedans, donc de l'humain, de l'environnement, on le voit bien, et donc moi, souvent, j'interviens dans des écoles où ils sont très très attentifs. L'univers de la Silver Economy fournit de start-up, je dirais, qui cherchent justement des solutions pour aider les gens à rester chez eux. Moi, simplement, je leur dirais que il y a deux façons de voir, soit effectivement les yeux baissés, la sinistrose face à tous ces enjeux, soit finalement un grand sourire avec beaucoup d'opportunités, des métiers qui n'existent pas aujourd'hui, qui existeront demain. C'est de la création d'emplois, c'est de l'innovation pour des valeurs qui, je pense, habitent de plus en plus les jeunes générations. Donc c'est aux entreprises, c'est aux acteurs publics, je dirais, d'accompagner ce mouvement. On n'a pas, je le disais quelque part, l'occasion de vivre de telles révolutions. Et là, on est vraiment au cœur, je dirais, du réacteur. C'est pas le moment. Du réacteur de l'innovation, de beaucoup de choses par rapport au bâti. Donc, non, au contraire, il faut regarder ça avec confiance. Et puis que tout le monde s'y mette de façon vraiment plus en silo. Pour que effectivement
très coopératif
et avec cette vision d'une société plus durable, ça veut dire écologique, mais aussi ça veut dire inclusive, et voilà, ce sera mon mot de conclusion. Mais voilà, il faut plus exclure l'humain. C'est pas un sujet de technique appliquée au bâtiment, c'est un sujet je dirais d'environnement appliqué aux humains.
Fantastique. Merci pour ce mot de conclusion. Je n'ajoute rien. Elle est parfaite, donc on la garde. Merci beaucoup, Jean-Philippe Arnoux, d'être venu éclairer ces sujets-là ce matin avec nous et au plaisir de vous retrouver.
Merci à vous, Marjolaine. Au revoir.
Un bâti-moment avec Marjolaine Meynier-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC.